7h, bon réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. C'était avant tout une voix magnétique et puis sur scène ou derrière une caméra, une présence envoûtante et des yeux de biche. Juliette Gréco, la jolie môme de Saint-Germain-des-Prés, est morte à l'âge de 93 ans. Amie de Boris Vian, amoureuse de Miles Davis, Gréco a chanté les plus grands, Prévert, Ferré, Gainsbourg. Une femme libre et engagée, vous l'entendrez, archive à la clé.
Les bars et les restaurants devront fermer leurs portes dans la métropole d'Aix, Marseille et en Guadeloupe. Tour de vis sanitaire pour éviter un emballement incontrôlé de l'épidémie de Covid-19.
Une punition collective dénoncent encore les restaurateurs et les élus politiques du sud de la France. Mais ce n'est pas le seul secteur qui fait grise mine. Enjeux économiques et sanitaires décryptés dans un instant.
Et puis à la une, encore un plan à 3 milliards d'euros pour renforcer la sécurité des sites industriels.
Annonce attendue aujourd'hui, un an après l'incendie hors norme de Lubrizol à Rouen. Et puis aux États-Unis, Donald Trump refuse de dire s'il cédera pacifiquement le pouvoir en cas de défaite à la présidentielle.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour. Quel impact l'allongement du congé paternité peut-il avoir, notamment sur l'égalité femmes-hommes ? Je poserai la question à Hélène Périvier, elle est économiste à l'OFCE.
Dans l'après-guerre, elle avait à peine 20 ans que déjà Juliette Gréco fréquentait les intellectuels et les artistes parisiens. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Albert Camus, Boris Vian, Roger Vadim. Bonjour Benoît Grossin.
Bonjour.
La muse de Saint-Germain-des-Prés est morte à l'âge de 93 ans et l'on retiendra d'elle que c'était une femme libre.
Juliette Gréco, en 1951, interprète « Je suis comme je suis ».
Bien rangé.
Cette chanson de Jacques Prévert affirmant la liberté de disposer de son corps comme on veut a bien été composée pour elle. Libre dans son allure provocante, vêtue de noir avec ses grands cheveux, ses yeux de biche et un regard charbonneux, Juliette Gréco, dans un entretien avec Eliane Contini en 1986 sur France Culture, rappelle que les gens étaient souvent outrés par son physique à ses débuts, qu'elle était même rejetée.
Complètement, absolument. On jetait des pierres sur les Champs-Élysées et on me regardait comme si j'étais la statue du commandeur, le monstre de Loch Ness et Lady Macbeth réunis. Enfin,
celle par qui le scandale arrive ?
Absolument.
Vous vous sentiez scandaleuse à l'époque ?
Je suis scandaleuse.
Vous l'êtes toujours ?
Oui, absolument.
Aujourd'hui, vous l'êtes par rapport à quoi ?
Par rapport au silence que j'observe.
Libre dans sa sexualité, c'est elle, Juliette Gréco, qui choisissait les hommes et pas l'inverse.
Je suis une femme. Je suis une femme et je m'en flatte. J'en suis très fière. Et je ne changerai pour rien au monde mon état de femme. J'ai vécu comme un homme avec les plaisirs que peut avoir une femme et qui sont irremplaçables, je crois. Voluptueux complètement. Complètement.
Juliette Gréco, libre aussi d'aimer Miles Davis du temps de la ségrégation aux États-Unis.
Je m'étais pas du tout aperçue qu'il n'était pas de la même couleur que moi. Je me suis aperçue de ça quand je suis allée quelques années après à New York, où ça a été un peu difficile pour moi, et pour lui aussi d'ailleurs. Il a fallu qu'il m'interdise d'aller le voir, parce que j'étais une femme blanche et qu'il avait très peur pour ma réputation.
Et libre de s'exprimer, engagée à gauche, Juliette Gréco s'était rendue au Chili sous Pinochet pour interpréter des chansons comme « Les cimetières militaires » qui n'ont pas plu du tout aux autorités au point d'être expulsées.
Monsieur le surveillant, les cimetières, pourquoi le terre militaire sont accueillants, quel que soit le vent.
Benoît Grossin, merci. Et pour continuer sur Juliette Gréco, une vie de jolie môme, c'est un article à retrouver en une sur franceculture.fr.
7h04 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu, ex- Marseille et la Guadeloupe en rouge écarlate, c'est l'alerte maximum sur la carte du Covid en France.
Circulation intense du virus et des réanimations remplies d'au moins 30% de patients Covid. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donc décidé de serrer la vis le temps qu'il faudra avec fermeture totale des samedis, des bars et des restaurants à Aix-Marseille et en Guadeloupe, à Paris et sa petite couronne, à Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rouen, Grenoble, Montpellier et Rennes. Là, ce sont des zones d'alerte renforcées. Les bars et les restaurants devront fermer à partir de 22h, les rassemblements seront limités à 1000 personnes. Les fêtes locales et étudiantes interdites. Il faut éviter les tentations, explique Olivier Véran. Mais c'est une punition collective, une injonction de Paris prise sans aucune concertation avec un territoire, estiment de leur côté les cafetiers, restaurateurs et les élus du sud de la France. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
La décision de fermer dès ce week-end les bars et restaurants dans les Bouches-du-Rhône ne passe décidément pas.
Oui, le président de la région, Renaud Muselier, parle de punition collective extrêmement dure pour l'économie de nos territoires. Et voilà un quasi-reconfinement. Étonnement et colère du côté de la maire de Marseille, Michèle Rubirola, qui ne s'explique pas cette décision prise selon elle sans concertation et sans justification sanitaire.
Je ne peux pas cautionner des mesures qui, médicalement, ne font pas sens pour moi. Parce que la courbe des tests monte, mais avec un ralentissement, les taux d'incidence se baissent. Comment les Marseillaises et les Marseillais vont comprendre qu'on les sanctionne alors qu'on va vers le mieux? C'était un peu difficile, comme partout, parce qu'il y a eu l'été, les gens, après le confinement, se sont laissés aller, mais il y a eu une prise de conscience, il y a eu des mesures qui ont été mises en place et ont commencé à avoir l'impact positif de ces mesures. Et là, on a une sanction qui est incompréhensible.
Des propos recueillis par Cécilia Arbona, Marseille, mais aussi Aix-en-Provence, sont donc concernés par la fermeture des bars et restaurants à partir de samedi. Tout comme vous le disiez, la Guadeloupe, fermeture aussi dans ces zones des établissements recevant du public, sauf ceux qui ont un protocole strict, comme les théâtres, les musées ou les cinémas. Et puis, dans les 11 métropoles qui sont en zone d'alerte renforcée, on notera aussi que les gymnases et les salles de sport seront fermées pendant au moins 15 jours, d'où l'incompréhension de ce dirigeant de deux salles de sport à Rouen et dans les Yvelines, Guillaume Henry.
C'est une vraie catastrophe et en même temps une honte, parce que s'il y a bien des lieux où le respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires sont particulièrement restrictifs, c'est bien dans les salles de sport. On désinfecte plusieurs fois par jour, virucides, protocoles d'accès, port du masque, désinfection des mains, réservation, ça veut dire restriction en termes de nombre de personnes par jour dans les salles. Donc s'il y a bien un lieu où les zones, enfin les gestes barrières et les protocoles sanitaires sont respectés, c'est bien dans les salles de fitness.
Les représentants des salles de sport, de l'événementiel, du secteur de l'hôtellerie-restauration participeront d'ailleurs à une réunion téléphonique à 11h30 ce matin avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire et le ministre en charge des PME Alain Griset. L'État est et restera aux côtés des entreprises concernées, a assuré Bruno Le Maire hier soir sur Twitter. Du côté des restaurateurs, on espère bien faire revenir le gouvernement sur sa décision de fermer les bars et restaurants dans les zones placées en alerte maximale.
Anne-Laure Jumet, merci pour ces explications. Au procès des attentats de janvier 2015, la Cour entre aujourd'hui dans l'examen du fond, à savoir les faits reprochés à chacun des 14 accusés, dont 3 sont en fuite, avant de plonger notamment au cœur de la radicalisation des frères Kouachi, terroristes de Charlie Hebdo. Les dernières parties civiles se sont exprimées hier et la journée s'est achevée sur un nouveau témoignage fort, celui de Sophie, enregistré depuis les États-Unis où elle vit désormais et qui n'a pas pu venir en France en raison des restrictions sanitaires. Compte rendu d'audience de Florence Turm.
Plusieurs otages la décrivent comme la grande dame élégante descendue au sous-sol à la demande expresse d'Amélie Coulibaly qui veut les voir tous remonter dans le magasin. Parmi eux, un père et son petit garçon. Et je m'en suis voulu de faire remonter un enfant de 3 ans. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Son récit, terme choisi, émotion contenue, résume à lui seul tous ceux qui ont décrit avant elle ces 4 heures d'angoisse. Une angoisse qui perdure, anxiété, tristesse permanente, un long chemin vers la reconstruction balisé de culpabilité. Pourquoi moi? Pourquoi eux? Pourquoi? Ça vous bouffe les pourquoi, reprend Sophie. Alors j'ai essayé de me dire comment je vais m'en sortir, comment quand tout paraît insignifiant, insupportable. Elle a choisi de quitter la France pour les États-Unis, son travail, sa famille, ses amis, un véritable déchirement, mais pour moi une nécessité, il fallait que je mette mes enfants à l'abri. Son visage se détache sur le mur blanc, une aquarelle pour unique décor, elle appuie sur les mots, mais je n'ai jamais perdu de vue que le procès allait se tenir. Si je témoigne, c'est pour qu'on se souvienne de ces quatre victimes innocentes que la cour d'assises juge et condamne les complices de cet attentat clairement antisémite perpétré par des islamistes français, que l'on comprenne les ramifications de ces réseaux de haine pour nous protéger. Elle rappelle la menace proférée par Amédi Coulibaly, ça ne fait que commencer, et effectivement, dit-elle, ça venait de commencer.
Le 26 septembre 2019, près de 10 000 tonnes de produits chimiques brûlés sur le site classé Céveso de Lubrizol à Rouen, spécialisé dans la fabrication d'additifs pour huile de moteur. Du gouvernement, aujourd'hui, élus et associations attendent des mesures fortes, plus de sanctions contre les usines en infraction, plus d'inspecteurs sur les sites, moins d'allègements des règles environnementales. Le collectif unitaire de Lubrizol défile toute cette semaine en fin de journée pour mobiliser la population sur ce sujet, une population encore traumatisée par cet accident industriel dont on ne connaît pas toutes les conséquences. Une sirène alerte sur le passage du cortège, le reportage de Véronique Rebérotte.
Ces sirènes d'alerte incitant au confinement, Robin Letellier, habitant de Rouen, aurait bien aimé les entendre retentir en temps et en heure.
Avis à la population, restez confinés.
Au tout début de l'incendie de Lubrizol.
Il faut voir que le feu, il a quand même démarré à 2h45 du matin. Et la sirène, quoi, les deux sirènes qui étaient vraiment les deux sirènes les plus proches du site, ont sonné. Je vous dis à 7h40, si je me rappelle bien. Et donc, ça veut dire qu'il y a déjà un décalage de 5 heures. Et pendant ce temps-là, ça explosait partout. Il y avait des flammes. On ne savait rien.
La grosse inquiétude des habitants reste les conséquences de l'incendie sur leur santé que contenait précisément le nuage de 22 km de long qui a survolé la zone. Des fibres d'amiante ont aussi été retrouvées à des kilomètres sur les terrasses et dans les jardins. Les odeurs demeurent. Aucun suivi médical ne sera mené à long terme, mais à la place, une simple enquête de ressenti. Simon de Carvalho, du collectif Lubrizol.
Nous attendons un vrai suivi sanitaire. C'est une entreprise Céveso Seuil Haut avec 10 000 tonnes de produits toxiques, des produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. On retrouve du benzopyrène dans le lait maternel. Enfin, je veux dire, il y a une vraie pollution, on a vraiment été intoxiqués et on a droit juste à un questionnaire un an après sur le ressenti. Mais de qui on se moque là ?
La famille de Laetitia habite à moins de 500 mètres de Lubrizol. La jeune femme a tiré son propre enseignement de la catastrophe.
Tout est dans des bacs rangés. Chaque, par exemple, les produits de salle de bain, dentifrice, tout ça. Tout est prêt à partir tout de suite dans un sac. On ne cherche pas. Les habits, c'est, ouais, voilà, les sacs sont à disposition très rapidement. On ne sait jamais.
Le collectif Lubrizol demande aussi des mesures plus contraignantes pour les industriels et un système d'alerte digne de ce nom. Des annonces pourraient être faites en ce sens par le gouvernement dans la journée.
J'espère que ces sirènes ne sont pas intervenues trop tard, Gérald, et que la population était mise en sécurité.
Reportage signé Véronique Rebérotte sur ce même sujet. J'ajoute que Paul Poulain, spécialiste des risques industriels, sera l'invité de Thomas Cluzel dans le journal de midi et demi sur France Culture. Aux États-Unis, Donald Trump refuse de s'engager sur un transfert pacifique du pouvoir en cas de défaite. Interrogé par un journaliste sur les émeutes que l'on a pu voir ces derniers jours, sur des actions violentes des défenseurs de Trump et de ses adversaires, le président républicain n'a pas été rassurant.
Il va falloir voir ce qui se passe. Vous le savez, je n'ai pas arrêté de me plaindre à propos du scrutin. Les bulletins de vote sont un désastre. Débarrassons-nous de ces bulletins de vote et ce sera très pacifique. Il n'y aura pas de transfert. Vraiment, ce sera une continuation.
Donald Trump qui a semblé hier soir vouloir annuler donc les bulletins de vote envoyés par la poste. Le président a par ailleurs expliqué hier que les résultats de la présidentielle finiraient selon lui à la Cour suprême, d'où sa stratégie de nommer dès samedi une remplaçante au siège laissé vacant par la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg. Donald Trump doit se recueillir aujourd'hui devant sa dépouille. Le temps de ce jeudi 24 septembre marqué par des averses, quelques éclaircies et des rafales de vent à 70-90 km/h près des côtes. Les températures seront comprises ce matin entre 9 et 15 degrés en moyenne du nord au sud, jusqu'à 20 près de la Méditerranée.